Continuer notre méditation sur le credo à partir de certains passages du catéchisme de l'Église catholique sur le mystère du mal et la providence. Mais la question du mystère du mal, c'est clair que ce n'est pas une question si simple et vous imaginez bien que ce n'est pas en deux topos, deux enseignements que nous allons pouvoir aborder toute la richesse de cette question. Ça fait partie, c'est la suite de ce que nous avions vu sur Dieu le Père. C'est à l'intérieur de Dieu le Père. Je prends Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc du coup, voilà, on aborde cette question du mystère du mal. C'est à l'intérieur de ça que le catéchisme de l'Église catholique l'aborde. Et donc voilà, ce que je vous propose, comme on le fait à l'habitude, et j'essaierai aussi pour les fois suivantes, mais il faut que j'y travaille un peu, de donner des thèmes, parce que je crois que vous avez aimé avoir des thèmes, parce que approfondir la foi, ce n'est pas un thème, donc, semble-t-il. Donc donner des thèmes pour chacune de nos rencontres, à partir du catéchisme de l'Église catholique, du coup, sur le credo toujours, mais par thème, le credo par thème. Je vous propose tout simplement de lire. Donc au numéro 302... La création a sa bonté et sa perfection propre, mais elle n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée en état de voie, in statu vie, vers une perfection ultime, encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. C'est très beau déjà, c'est ce premier passage, ce très beau numéro, c'est qu'est-ce qu'on appelle la providence? C'est ce dessein de Dieu par lequel il conduit sa création vers sa perfection. Et à travers ça, je trouve ça m'a fait beaucoup méditer de dire au fond, nous sommes en marche vers le bien. Nous sommes en marche vers un accomplissement. Nous sommes en marche vers une plénitude. Et le Seigneur conduit sa création et sa créature pour aller de plénitude en plénitude et jusqu'à ces temps qui sont les derniers, comme dit saint Paul, où le Christ est venu nous visiter. Et bien, de voir que cette plénitude que le Seigneur nous appelle à voir et à vivre, et bien nous y reconnaissons la providence de Dieu. Et à travers ça aussi, nous reconnaissons la bonté de la création, la bonté des êtres. Non pas que nous soyons dans un angélisme qui nous fasse méconnaître aussi que la méchanceté existe dans cette terre, et ça c'est sûr, mais le dernier mot, ce sera la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu qu'il aura. Parce que c'est ça la victoire du péché, de la résurrection sur le péché et sur la mort. C'est que profondément, la création elle est bonne et Dieu vit que cela était bon. Nous sommes blessés par le péché originel, cette cassure d'avec Dieu, cette coupure d'avec Dieu. Nous sommes blessés, si on peut éteindre la bouilloire. Nous sommes blessés par le péché originel, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a cette bonté de la création, qu'au fond, c'est dans l'amour que nous pouvons être rachetés. Et donc, nous pouvons nous remettre aussi dans le début de cette journée, notre vie, de voir au fond ce qui est bon et beau et vrai dans ces vies, dans nos vies personnelles, dans les vies de ceux qui nous entourent, c'est ça, voir le regard du Seigneur. Le Seigneur ne se laisse pas arrêter par le mal. Il conduit sa création vers la perfection. Même par des moments difficiles, il la conduit et c'est ça la providence. Et je trouve que aussi cette providence, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est découvrir dans les circonstances et les nécessités de notre vie quotidienne, comme le disait le philosophe Blaise Pascal, de découvrir dans ces circonstances et ces nécessités quotidiennes, eh bien, nos maîtres spirituels. C'est quoi les circonstances? Les circonstances de santé, circonstances de chômage, circonstances de... Les plus douloureuses, bien sûr, gagner au loto, c'est aussi une circonstance, mais ce n'est pas tous les jours, surtout quand on ne joue pas. Et donc, circonstances heureuses aussi d'une naissance dans la famille. Voilà, ces circonstances-là, circonstances de santé, ces nécessités, ce qui s'impose à moi, et que parce que je n'ai pas choisi, et ce que peut-être je n'aurais surtout pas voulu choisir, qui va choisir d'être malade? Personne. Donc, qui va choisir une situation douloureuse? Personne dans la famille, de mésententes, de conflits, de personne. Mais je reconnais dans ces circonstances et ces nécessités des maîtres, que Dieu guide sa création vers sa perfection. Il me guide vers la sainteté. Il me guide vers la sainteté. Et ça, c'est très beau. Ça veut dire que rien ne peut s'opposer au plan de Dieu pour que nous devenions des saints. Être saint, vous le savez, ce n'est pas l'impeccabilité, les saints se confessent, c'est juste la tendre vers la perfection de l'amour. Eh bien, chaque circonstance nous invite à tendre vers la perfection de l'amour. Alors, si vous l'imaginez, c'est un regard de foi, hein, parce que sans la foi, ce que je viens de dire, c'est pratiquement inaudible. C'est un regard de foi. C'est une attitude intérieure. Ça demande une vie de prière, une vie spirituelle. Ça n'a rien d'évident à certaines heures quand on est dedans, la tête dans le guidon et dans la difficulté. Ça n'a absolument rien d'évident de croire que cette circonstance particulière va être une circonstance qui va d'une certaine manière m'emmener dans un amour plus grand. Mais en même temps, combien, je pense à des malades, par exemple, là on me citait l'exemple d'une jeune mère de famille partie par un cancer, bon, à cause d'un cancer, etc., mais qui a vécu vraiment, même plusieurs évêques sont venus la visiter, tellement elle était quelque part rayonnante, tellement elle était déjà très impliquée dans son église, évidemment, mais rayonnante. Mais je pense que c'est... elle a vécu cette circonstance douloureuse de laisser ses enfants, de laisser son mari, de laisser ses amis, sa famille... Mais elle l'a vécu dans un tel abandon, une telle transparence, je ne l'ai pas connue, mais de ce qu'on m'en a dit, qu'on repartait meilleur après l'avoir visité qu'avant. Qu'on repartait meilleur, qu'on repartait encouragé, alors que c'était elle qui était à toute extrémité. Vous voyez, la sainteté au quotidien, je ne connais même pas son nom, personne peut-être connaîtra son nom, sinon ceux et celles de son entourage, mais pour ceux et celles qui l'ont fréquenté, ça a été l'expression de la providence. Que Dieu l'a, quelque part, dans cette circonstance-là, permis de témoigner. Et il en va de même aussi dans nos vies, hein, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes plongés, il y a toujours un témoignage à donner. Il y a toujours une bonté à exprimer. Ne prétextons pas les circonstances et les nécessités pour justifier notre médiocrité. Non, ces circonstances et ces nécessités sont dans la main de Dieu parce que ma vie est dans la main de Dieu. À certaines heures, je l'accorde, c'est pas facile à croire. Je l'accorde. Là-dessus, nous avons notre combat. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai du mal à vivre les choses qu'elles ne sont pas vraies. Je peux très bien avoir des heures, la difficulté d'avoir, de vivre un véritable amour avec moi, avec mon époux, pour celles d'entre vous qui sont mariés, ou avec mes enfants, mais ça ne veut pas dire que vous ne tendez pas vers. Hein, nous sommes instatuviés, en chemin. Nous sommes en chemin. Tous ici, nous sommes en chemin. Et l'apôtre Saint Paul dira, nous sommes en pèlerinage. On est en chemin. Et j'aime bien cette phrase de Benoît XVI qu'on ne peut pas accuser de relativiste. Quand on lui demandait, un journaliste un peu facétieux, lui tendait un piège et lui posait la question « Combien y a-t-il de chemins pour aller vers Dieu ?» S'attendant que le cardinal ou le Saint-Père, il était Saint-Père déjà à l'époque, ben forcément l'Église catholique. Et lui de répondre « Autant que de personnes. » Autant que de personnes. Chacun a son chemin et il y a un chemin pour chacun. Dans cette perfection de l'amour, à la rencontre du Christ. Et quand on rencontre, et on ferait, ne serait-ce ici, le témoignage de nos vies, on verrait combien le chemin, les chemins par lesquels vous êtes passés, dans votre vie conjugale, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie de chrétienne, ces chemins sont tellement différents. Et je pense aussi que c'est important de rendre grâce au Seigneur pour le chemin par lequel il nous fait passer. C'est de refaire quelque part aujourd'hui, ça pourrait être bien de faire une sorte de relecture de nos vies. Mais par où on est passé au fond, par où c'est par là qu'il nous a fait passer pour nous conduire. Parce que c'est sa providence qui nous conduit. Dieu garde, donc c'est numéro 302. Dieu garde et gouverne par sa providence, le deuxième paragraphe du 302, tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Livre de la sagesse. Car toutes choses sont nues et à découvert devant ses yeux, lettre aux Hébreux, même celles que l'action libre des créatures produira. Même celle que l'action libre des créatures, tout est à découvert devant ses yeux. Parce que Dieu étant dans l'éternité, hier, aujourd'hui, demain ne veut rien dire. C'est un éternel présent. Et de façon, il est omniscient, sinon il n'est pas Dieu. Si Dieu apprenait quelque chose, et c'est là où le grand mystère, à la fois l'omniscience, Dieu sait tout, et à la fois nous sommes pleinement libres. Bon, ben c'est un grand mystère, la providence. C'est-à-dire, comment Dieu providence, c'est voir devant. C'est celui qui voit devant. Alors, s'il voit devant ce que je vais faire, alors du coup, on se mord, c'est comme le chat qui se mord la queue. Si je vois devant, ben, du coup, moi, je ne suis pas libre. S'il voit déjà que j'allais venir ici à cette halte spirituelle, par exemple. Et pourtant, quand vous êtes levé ce matin, vous n'avez pas senti ni une marionnette, ni avoir un pistolet sur la tempe pour venir, j'espère. Et moi non plus pour vous parler. C'est que c'est librement et sans contrainte. Mais en même temps, j'y reconnais la providence. Il reste encore une feuille là-bas. Donc, je crois que c'est important pour nous de nous remettre face à ça, en ce début de journée. Nous remettre face à ça, de nous remettre face à... Ça nous aide à prendre de la hauteur. Ça nous aide à prendre de... Oui, la vraie mesure, le psaume dit, apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Ah, tu m'as fait passer par là, par ce chemin-là, qui était certainement, encore une fois, quand c'est heureux, ben, nous rendons grâce à Dieu, mais quand c'est malheureux, aussi nous reconnaissons d'une certaine manière que Dieu nous conduit par là. Hein, c'est tout le livre de Job. Le livre de Job, c'est justement ça. Hein. Si nous reconnaissons dans le bien l'œuvre de Dieu, et bien le mal, pourquoi nous ne l'acceptons-nous pas aussi? Si au fond, quelque part, on sait que tout est dans les mains du Seigneur. Le témoignage de l'Écriture est unanime, numéro 303. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu, au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Psaume. Et le Christ, il est dit, s'il ouvre, nul ne fermera, s'il ferme, nul n'ouvrira. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera, livre des Proverbes. Voilà, c'est le témoignage de l'Écriture est unanime, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de cette et c'est en caractère italique dans le texte, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Sollicitude est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Elie Wiesel. Elie Wiesel, juif de son état, comme vous l'imaginez, et qui disait la Shoah, un penseur juif, et qui disait après la Shoah, je ne peux plus croire en Dieu. Mais après la Shoah, je ne peux plus ne plus croire en Dieu. Cette mort industrialisée a été, qui est objectivement un mal, voilà, ça, c'est rien de le dire, le mot est faible, mais pour certains a été le lieu de la sainteté. Le lieu d'un amour plus grand. Ah bon, bien sûr, on connaît le père Kolb, hein, vous connaissez le témoignage d'un père Kolb. Voilà, il n'aurait pas été dans cette circonstance-là, quelque part, tellement contraire au dessein de Dieu. Mais Dieu, ben voilà le père Kolb qui s'est offert en sacrifice pour un père de famille polonais qui allait mourir dans le bunker de la faim parce qu'un des prisonniers s'était évadé, donc 10 devaient mourir de faim et de soif. Et le père de famille polonais supplie l'officier allemand et dit « Laissez-moi vivre, je suis père de cet enfant, etc. etc. » Et le supplie, etc. Et touché de compassion, le père Kolb fait, lui-même aussi prisonnier, un pas, sort du rang. « Que veux-tu ? » demande l'officier allemand. « Je veux mourir pour l'un d'eux. Pour qui veux-tu mourir ?» Et il désigne le père de famille. Et il a fallu... Il y avait tellement d'amour en lui qu'il lui a fallu lui en donner une injection létale parce qu'il y avait d'autres qui devaient prendre la suite et lui ne mourrait pas. Alors qu'il est cardiaque au dernier degré et il avait un quart de poumon. Et on chantait des cantiques dans le bunker de la faim. Oui, bon, on se dit, alors vous dites, bon oui, mais vous nous mettez un truc tellement haut, mais quelque part, cette circonstance-là a été comme un révélateur aussi qui nous a fait découvrir, qui fait que le père Kolb a été canonisé non seulement comme saint, c'est-à-dire professant la foi, mais aussi comme martyr. Saint Jean-Paul II avait beaucoup insisté là-dessus. Voilà, mais je trouve ça assez beau qu'on lise ça. La sollicitude concrète et immédiate. Nous sommes dans des situations, grâce à Dieu, beaucoup plus paisibles. Dans d'autres parties du monde, on sait que les chrétiens, eux aussi, sont très largement persécutés et très largement violentés. Il n'y a pas que les chrétiens du reste, il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de parties du monde. Hein, comme on est chrétien, ça nous touche plus, mais justement de se dire, ben, est-ce que dans cette réalité, combien aussi Dieu sort à chaque fois le bien de toute réalité. Ainsi voit-on le numéro 304. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture, attribuer souvent les actions à Dieu sans mentionner des causes secondes. Ce n'est pas là une façon de parler primitive, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu et sa seigneurie absolue sur l'histoire et le monde, et d'éduquer ainsi à la confiance en lui. La prière des psaumes est la grande école de cette confiance. Oui, souvent on dit dans l'Écriture, vous en voyez, Dieu a fait ceci, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu a fait cela, etc. Nous croyons, nous, en un Dieu qui agit dans l'histoire. Ce n'est, à la différence des mythologies païennes, où il y avait les dieux qui étaient dans l'Olympe, mais qui n'avaient aucun contact avec les humains, nous croyons que le Dieu de Jésus-Christ, non seulement agit dans l'histoire en Jésus, mais déjà dans l'Ancien Testament, a manifesté par l'appel qu'il a lancé à des hommes et des femmes, eh bien, a manifesté qu'il agissait dans l'histoire, de façon concrète. C'est ce qui est dit là, de façon... Voilà, c'est... Ce n'est pas un Dieu indifférent. J'ai écouté la misère de mon peuple, vous vous rappelez, hein, dans le livre de l'Exode, quand Moïse est appelé, hein, eh bien Moïse a cette rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, et ensuite il a cette révélation, ce message du Seigneur, j'ai entendu la misère de mon peuple, va et dis à Pharaon, libère les Juifs d'Égypte, etc. Et du coup, c'est toute l'histoire. Mais cette intervention de Dieu dans l'histoire. Et pour nous, comme chrétiens, je veux dire, puissance 10. Parce que forcément, en Jésus-Christ, Dieu intervient dans l'histoire. C'est la manière que Dieu a d'intervenir là. L'ultime manière, l'ultime parole par laquelle Dieu intervient dans l'histoire. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Apocalypse. C'est la parole ultime. Numéro 305. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père céleste qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, tout cela vous sera donné par surcroît. » Ben oui, mais je trouve ça, c'est au fond, la réponse à un Dieu providence, c'est l'abandon et la confiance. Qui n'est pas, vous le comprenez, un manque de responsabilité. Dieu ne nous déresponsabilise pas. Au contraire, l'apôtre saint Paul, par exemple, au tout début, parce que les chrétiens étaient absolument persuadés que Dieu, Jésus allait revenir, etc., et de dire que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire, celui qui n'a pas son gagne-pain, sous prétexte de vie spirituelle, eh bien qu'il ne mange pas non plus. Qui ne prétexte pas sa vie spirituelle pour justifier sa paresse. Et donc, là aussi, c'est cet abandon, qui est un abandon actif, au soin un abandon entre les mains de Dieu, dans ses circonstances et ses nécessités, eh bien, je m'en remets. Un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise. Alors qu'on est tellement habitué dans le contrôle, dans le risque zéro, dans la maîtrise de soi, la maîtrise de tout, maîtrise de soi, c'est bien, mais la maîtrise de tout maîtriser, tout rien ne m'échappe. Hein, on voit bien que c'est même un peu dans nos sociétés avec la quantité, cette mentalité un peu sécuritaire de tout des normes, tout doit être clac clac, tout doit être bon. En même temps, c'est assez positif parce que quand il s'agit d'hygiène, mais parfois on voit que c'est complètement excessif. Mais derrière ça, c'est l'homme qui veut tout contrôler, quoi. Que rien ne m'échappe. Et puis, il y a des moments dans la vie, la maladie, un accident, eh bien, tu vois qu'il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. Et c'est parfois des conversions. Des conversions très profondes du cœur, qui se tournent vers Dieu, comme un pauvre. Donc l'abandon filial, la réponse à la providence. Ne vous inquiétez donc pas, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire? Ou Jésus qui dit, à force d'inquiétude, pouvez-vous allonger ne serait-ce que d'un jour la durée de votre vie? La réponse est non. Alors il y a des psychologies parfois qui sont angoissées. Anxieuse. Maintenant, c'est la question de la. Voilà, c'est des natures. Ben voilà, on a la nature qu'on a, on ne choisit pas toujours parce que c'est notre histoire, parce que c'est je ne sais pas quoi. Donc, Voilà, on a des natures, il y a des natures qui sont très anxieuses. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une nature anxieuse, je veux dire, quelque part, l'acte d'abandon n'en sera que plus méritoire. On ne choisit pas toujours sa nature, on ne choisit pas toujours sa psychologie. Il y en a qui sont plutôt pessimistes, d'autres qui sont optimistes, ils voient le voir à moitié plein, à moitié vide. Bon, ça c'est nos psychologies, je veux dire, c'est ni bon ni mauvais. Je veux dire, mais qu'est-ce que. Mais en revanche, là où j'ai pris, c'est la manière dans ma. Une chose le psychologique, autre chose le spirituel. Le spirituel, c'est dans cette relation avec Dieu, dans cet abandon. Et quelque part, ça, ce qui demandera plus d'efforts, et peut-être plus que quelqu'un qui spontanément voilà, a cette capacité de lâcher prise. Il y a des gens comme ça qui sont plutôt. Voilà, plus. Mais justement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire des actes d'amour, de faire des actes de confiance, des actes d'abandon à sa volonté, même si intérieurement je suis angoissé. Où je suis face à une situation angoissante. On peut être aussi, sans être d'une psychologie angoissée, face à une situation angoissante. Hein, chômage pour un père de famille, évidemment, c'est une situation angoissante. La maladie d'un enfant, c'est une situation angoissante, surtout quand c'est une maladie grave. Les brouilles en famille, ou tout ça, il y a un certain nombre de situations angoissantes face à. Bon, je peux sentir la boule au ventre. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Mais que ça ne m'empêche pas, ça, de redire au Seigneur, je m'abandonne à toi. Cette prière de Charles de Foucault, qui est aussi belle que redoutable. Mon Père, je m'abandonne à toi, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Ben voilà, c'est vrai que c'est pas si. C'est. On demande la grâce d'eux. Quand on dit cette prière, on la chante aussi, quand on la dit, quand on la chante, eh bien, voilà, il y a toute une. C'est pour faire les choses, comment dire. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un abandon parfait que. Voilà, on est pêcheur et que on est instatuvié, on est en voie d'accomplissement, on est en chemin. Donc je fais ça pour m'abandonner, non pas parce que je suis complètement abandonné, complètement remis dans les mains du Seigneur, mais c'est pour m'y remettre. Hein, nous qui avons fait comme religieux profession de pauvreté, chasteté, obéissance, ça ne veut pas dire qu'on pratique parfaitement les trois vœux, les trois conseils évangéliques. On peut avoir de la misère avec l'un ou l'autre vœu à un certain moment de nos vies. Mais on les a professés pour y arriver. Parce qu'on sait qu'on est en chemin. Donc ne nous décourageons pas, même si parfois, on sent que cette maîtrise, ce côté un peu parfois aussi orgueilleux en nous, ce côté tout simplement aussi douloureux en nous, nous empêche un abandon entre les mains du Seigneur. Bien, ne nous inquiétons pas de ça. Je veux dire, quand on sent que c'est volontaire que j'aurais pu, on le remet dans la miséricorde, dans le sacrement de la réconciliation, mais au moins que nous puissions rebondir et redire au Seigneur notre confiance en lui. Même si on est passé par des moments de fermeture. Bon. Ça fait partie de la vie. C'est la réalité de nos vies. La providence et les causes secondes. Alors là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu, un peu plus philosophique, j'allais dire, mais bon, je pense que ce n'est pas trop compliqué encore. Dieu est maître souverain de son dessein. Mais pour sa réalisation, il se sert, au numéro 306, il se sert aussi du concours des créatures. Ceci n'est pas un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, il leur donne aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres et de coopérer à l'accomplissement de son dessein. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. C'est ce qu'on appelle les causes secondes. Dieu est cause première. Mais si je suis malade et que Dieu guérit par le médecin, c'est la manière dont Dieu a de guérir. Pour annoncer la parole de Dieu, ben, Dieu passe par le chrétien, le prêtre, la personne, le missionnaire, prêtre, laïc, religieux, religieuse, qui annonce la parole de Dieu. Il peut venir se manifester en direct, c'est vrai, mais c'est rare. Il passe par des causes, ce qu'on appelle secondes. Nous sommes la religion des médiations, et spécialement la religion catholique, j'allais dire, la foi catholique, la foi chrétienne en général. C'est-à-dire que Dieu passe par des médiations, et des médiations humaines. Et ça, dans le catholicisme, c'est très fort, plus que chez nos amis protestants, où il y a plutôt ce lien direct avec Dieu et direct avec l'Écriture. Mais une certaine méfiance de tout ce qui peut être médiation humaine. Hein, dans le protestantisme, on a cette vision que l'homme, au fond, est vraiment pécheur et que, au fond, la grâce vient le recouvrir d'un manteau, mais ne le transforme pas intérieurement. Quoi. Bon, ça dépend, encore, il y a plusieurs protestantismes, il y a un peu de tout. Mais dans le catholicisme, en tout cas, c'est très fort cette dimension de médiation humaine. Dieu passe par des médiations humaines, par des causes secondes. Alors bien sûr, il peut faire des miracles. Ça, c'est pas. Mais les miracles, j'y crois, à condition qu'ils soient rares. Je veux dire, Dieu ne fait pas en permanence des miracles. Même du temps de Jésus, en permanence, Jésus ne faisait pas de miracles. Et du temps de Jésus, il y avait encore des médecins, et les gens étaient encore malades et allaient voir le médecin, du temps même du Christ. Donc oui, il y a des interventions de Dieu parfois manifestes, énormes, c'est-à-dire des grâces mystiques parfois qui sont données. Hein, peut-être vous avez eu une expérience spirituelle. Là, on est en train de lire au réfectoire un certain nombre de témoignages de personnes qui se sont converties de l'islam à la foi catholique. Il y en a qui ont vu le Christ, voilà, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans cette perspective-là. Le Christ serait apparu. Bon, très bien pour eux. Mais ça ne leur empêchera pas un chemin de foi. Parce que le Christ n'est pas en permanence. La Vierge Marie a vu l'ange Gabriel une fois. Et le reste, elle a vécu deux fois. Elle a vécu deux fois. Donc, dans notre vie, c'est pareil. Il peut y avoir des moments très forts au plan spirituel, voire mystique. Là, l'Église est très prudente là-dessus. Et quand on me. Voilà, on dit que c'est des révélations privées, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur vie privée, ont eu un avant-goût du ciel. Pourquoi pas, ça, je pense, je ne mets pas en doute ça. Mais ce n'est pas ça le cœur de notre foi. Dieu continue d'agir par les causes secondes, continue de, au fond de. Nous coopérons à son dessein. Nous sommes les coopérateurs de Dieu, c'est ce que dit saint Paul. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. Quelle belle chose d'être coopérateur du Seigneur. Mais aussi quelle exigence d'être coopérateur du Seigneur. Parce que le fait d'être coopérateur du Seigneur fait que, eh bien, je suis aussi invité à la conversion en permanence. Nous, comme prêtres religieux en particulier, beaucoup les yeux sont tournés vers nous à certains moments pour une parole, un conseil, une prière. En même temps, nous avons nos fragilités comme tout un chacun. Nous sommes bien de nature humaine, ça, de ce côté-là. N'ayez aucun doute, nous ne sommes pas de nature ni divine ni angélique, mais bien ancrés dans cette humanité. Mais, au fond, voilà, mais Dieu passe par nous aussi. On a cette faiblesse de croire que quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », nous avons sur l'autel du Seigneur le corps et le sang du Christ. Nous sommes la religion des médiations. Imparfaite, mais dont Dieu se sert, avec lequel Dieu coopère, par lesquels Dieu agit, médiation, Dieu agit. En même temps, c'est très beau, ça. C'est très, très réconfortant. Quand vous lisez, par exemple, la généalogie du Christ, qui est, à mon avis, un des sommets de l'Évangile. Au tout début, dans les Évangiles de l'enfance, quand vous lisez la généalogie de Jésus, et que vous vous penchez, je vous invite à le faire une fois, à vous pencher sur les noms qui sont... Alors, il y a le nom des femmes. Les femmes, elles en prennent un peu pour... Bon, en dehors de la Vierge Marie, où là, ça va, ça tient la route. Il y en a une qui a, grosso modo, couché avec son beau-père. Bon, voilà, un peu semi-incestueuse, on va dire ça comme ça. L'autre qui était prostituée. L'autre qui était païenne, qui n'était pas du peuple d'Israël. Ben, vous allez voir... ceux qui sont les hommes ne veulent pas mieux, entre ceux qui ont du sang jusqu'au coude, qui ont fait égorger la terre entière, ceux qui ont été infidèles, à commencer par David, qui est dans la généalogie de Jésus, évidemment, c'est toute cette généalogie-là, c'est toute cette humanité-là que le Christ vient assumer. Il n'a pas dit, voilà, les premiers de la classe, vous ne mettez que les premiers de la classe. Parce que je veux que ce soit toute une généalogie, tout impeccable. Très intéressant, la généalogie du Christ. Très intéressant, parce que c'est justement cette incarnation, cette logique de l'incarnation, quelque part, même des rois injustes, comme le roi Akas, par exemple, etc., des rois sanguinaires, etc., quelque part, ont coopéré, ont fait advenir le règne, ont fait advenir le Christ. Parce que, évidemment, toutes les générations ne sont pas citées, parce que c'est un choix spirituel, c'est pas un choix, c'est pas comme dans une généalogie où on veut remonter absolument de façon très scientifique jusqu'au plus loin. Non, certaines personnes sont citées. Mais justement, pour dire Dieu est passé par elle pour que le Christ advienne. C'est très beau, je trouve ça... Heureusement que le Christ est passé, Dieu est passé par Saint Joseph qui a accueilli la Vierge Marie, sans laquelle la Vierge Marie aurait été probablement lapidée. Voilà, jeune fille enceinte avant le mariage, c'est pas très catholique. C'est intéressant, c'est pas le sujet, mais la Sainte Famille c'est intéressant, hein. Donc voilà, de dire qu'au fond, Dieu s'est montré pour le coup à Saint Joseph, et Saint Joseph a accueilli le don de Dieu de cette manière particulière. Au numéro 307, aux hommes, Dieu accorde même de pouvoir participer librement à sa providence en leur confiant la responsabilité de soumettre la terre. Dieu donne ainsi aux hommes d'être cause intelligente et libre pour compléter l'œuvre de la création, en parfaire l'harmonie pour leur bien et celui de leur prochain. Coopérateurs souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Ils deviennent alors collaborateurs de Dieu, c'est à l'aide de saint Paul aux Corinthiens, et de son royaume. Voilà. Non seulement soumettez la terre déjà à la création, soumettez la terre et dominez-la. La création a été remise à Adam et Ève, à l'homme et à la femme, sommet de la création, et nous aurons des comptes à rendre de l'utilisation qu'on fait de la nature. L'écologie, ce n'est pas uniquement les vers, hein, la partie des vers. L'écologie, il y a une écologie biblique depuis tout le temps. Mais justement, on aura à rendre des comptes, mais Dieu a voulu aussi que cette création soit remise entre nos mains. On soit déjà coopérateur de Dieu par ce respect de la création. Et évidemment de la créature. Et surtout la créature quand c'est une créature humaine, évidemment, c'est le plus important.